Bonjour tout le monde, bon vendredi matin, j'espère que vous allez bien. On va parler de voyage en deuxième heure d'émission. Est-ce que ça vous tente de vous préparer une croisière? Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques personnes qui ont été à nouveau contaminées par la COVID-19, bien sûr, par le coronavirus, sur un bateau de croisière. Et ça nous ramène à des souvenirs peu glorieux. Vous vous souvenez, ces Québécois qui étaient partis en croisière et qui avaient été contaminés, qui étaient restés sur le bateau coincés en quarantaine, un peu oubliés par tout le monde. Bref, aujourd'hui, je vais vous demander si vous prévoyez ce genre de voyage. Beaucoup de monde prépare des voyages là, avec la potentielle ouverture bientôt là, des frontières, surtout à partir du moment où on nous dit en juillet, on va peut-être relâcher un peu les règles de quarantaine. Ce ne sera plus forcément obligé là, d'avoir ces journées dans l'hôtel prison. Donc, est-ce que la croisière est une avenue pour vous? Est-ce que ça vous donne envie de prendre le large? Il y a quand même ce risque d'avoir des passagers asymptomatiques qui sont peut-être passés à travers les cracks des tests. Bref, c'est la situation auxquelles font face les gens là, qui sont sur le bateau de croisière en question. Fait qu'on aura les Québécois à qui on avait déjà parlé à l'époque, deux Québécois qui avaient été sur le Diamond Princess. Ils vont nous dire comment ils voient ça. Vous allez être étonnés d'apprendre certaines choses sur leur projet de voyage. On va également vous demander ce que vous feriez avec 70 millions de dollars, parce que c'est le gros lot de l'Auto-Québec. On en parlera avec Joselito Michaud. Mais d'abord, c'est un sujet un petit peu plus sérieux là, que je vous propose, mais je pense que c'est absolument nécessaire d'en parler. Plus sérieux, effectivement, et même, j'aurais envie de dire, plus dramatique, dans la mesure où, encore cette semaine, on a fait face à un 12e meurtre de femme par son ex-conjoint. Les féminicides s'accumulent au Québec et on ne semble pas être en mesure de trouver des façons de freiner ça. J'aurais envie d'avoir vos commentaires là-dessus. Et la question que je vous pose ce matin, ça va chercher de la responsabilité de tout le monde et les actions de tout le monde, dans le fond. Parce que ce qui ressort après ce 12e meurtre, là, on parle de cette dame, Lisette Corbeil, qu'on a retrouvée tuée mercredi par son ex-conjoint. Une femme qui ne répondait à aucun des profils qu'on pourrait s'imaginer d'une victime de violence conjugale. Il y a encore beaucoup de préjugés là-dessus. On s'imagine toujours que c'est une femme qui est démunie financièrement, même démunie socialement, qui est toute seule, qui n'a pas beaucoup de ressources, qui n'a peut-être pas beaucoup d'argent, qui n'a peut-être pas beaucoup d'éducation, qui ne sait pas trop, qui est faible, qui est une espèce de victime parfaite. Or, ce n'est pas ça. Ça peut arriver à n'importe quelle femme. Ça m'est arrivé à moi, je vous l'ai déjà raconté. Je suis pas faible, j'étais pas faible à l'époque. Le problème, c'est pas la victime. Le problème, c'est l'agresseur. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de freiner ça? Je dis freiner parce que complètement l'enrayer, je pense que ça serait complètement ridicule de penser ça, on n'y arrivera jamais. En tout cas, je veux pas être négative, là. Ça serait ce qu'on souhaite, mais comment au moins faire en sorte de soigner ces hommes-là qui sont les principaux agresseurs? Et surtout, nous, comme proches, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, la question que je vous pose, c'est vous, là, vous en connaissez peut-être des gens là, qui, en ce moment, sont dans un couple qui bat de l'aile, où vous sentez parfois, là, parce que vous avez les commentaires de l'un ou de l'autre, vous avez les confidences, puis il y a la conjointe qui vous dit « Écoute, des fois, je me sens pas en sécurité, j'ai l'impression que ça pourrait dégénérer à pas grand-chose. » T'sais, j'essaye de pas trop l'énerver d'un coup qui s'en prenne à moi. Il y a toutes sortes de phrases comme ça qu'on peut entendre. Souvent, on a tendance à dire « Est-ce que c'est vraiment de mes affaires? » Ça, c'est l'autre chose aussi. On n'ose pas se mêler. Mais si vous saviez qu'un couple de votre entourage vivait des tensions qui pourraient s'envenimer, qu'est-ce que vous feriez? On va en discuter tout au cours de cette heure. Et bien sûr, à chaque fois que je parle de ce sujet-là, j'encourage les femmes qui nous écoutent et qui sont en situation d'insécurité conjugale de communiquer avec nous, bien sûr. Des fois, en parler. Des fois, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous vivez, il y a beaucoup de honte aussi encore. Sincèrement, je vous le dis, là, on avance à petits pas. On avance un peu. Chaque fois qu'on en parle, j'espère qu'on fait avancer un peu cette cause. Mais il faut s'entraider. 514-790-9850 de l'extérieur de la grande région de Montréal. Vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. Guylaine Simard est porte-parole du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Elle est directrice du refuge de l'Ouest de l'île de Montréal. Bonjour, Madame Simard.
Bonjour, Isabelle.
Ce qui ressort encore beaucoup là, de ce dernier meurtre d'une femme par son ex-conjoint, dernier comme dans le dernier qu'on connaît, mais malheureusement pas le dernier, c'est tout le ressenti des proches, toute la détresse des proches aujourd'hui. C'est ça qu'on ressent beaucoup, Guylaine.
Ben, le sentiment d'impuissance, je pense, qui ressort effectivement parce que pendant des années, la violence conjugale, c'était vécu derrière les portes closes, puis c'était la sphère privée, puis il fallait surtout pas se mêler de ce qui se passe chez les voisins, tu sais. Et avec les années, la sensibilisation, tu sais, on en parle de plus en plus, puis on essaie de sensibiliser davantage les femmes et toute la population parce qu'effectivement, c'est un problème social, la violence conjugale. C'est pas un problème individuel parce que ça se construit dans notre socialisation. T'sais, un conjoint violent, c'est pas un problème dans son système émotionnel. Il n'y a pas un problème à gérer sa colère ou il n'est pas en train de perdre le contrôle. C'est quelque chose qui est construit au niveau de son système de pensée. T'sais. Et c'est là où, avec le temps, avec les années, qu'on essaie de faire de la sensibilisation pour changer l'éducation des garçons pour justement déconstruire ces croyances-là qui amènent des relations qui ne sont pas du tout égalitaires. Tu sais.
Oui, vous avez tellement raison, Guylaine. En même temps, quand vous parlez des relations qui ne sont pas égalitaires chez les jeunes couples, on pourra en parler aussi, ça serait l'objet de tout un sujet. Mais en ce qui concerne ce meurtre-là, cette semaine, cette dame, Lisette Corbeil, tout le monde n'a que de bons mots pour elle, bien sûr. Tout le monde dit que c'était une femme qui était émancipée, qui était affirmée. C'est tout le portrait, c'est tout le contraire du portrait que certains peuvent se faire d'une victime de violence conjugale. Moi, je m'en rends compte, il y a encore beaucoup, beaucoup de préjugés par rapport à la victime. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 21, on a encore cette espèce de faux portrait type de la victime de violence conjugale?
Ben, je pense qu'encore aujourd'hui, on connaît mal la violence conjugale. On a encore l'impression que c'est surtout de la violence physique. On connaît moins bien toutes les autres formes de contrôle, le contrôle coercitif, entre autres, où le conjoint va contrôler par micro-régulation tous les petits gestes du quotidien, toutes les petites actions. Puis souvent, dans les contextes de féminicide, comme ça, il n'y avait pas nécessairement de violence physique, mais il y avait énormément de contrôle coercitif dans ce contexte de relation-là. Puis effectivement, ça a un impact sur le fait que beaucoup de femmes ne se perçoivent pas comme victimes parce qu'elles ne se trouvent pas faibles, elles ne se trouvent pas soumises. Donc, elles ont de la difficulté. Oui, mais moi, tu sais, j'ai été à l'école, j'ai été éduquée. On l'entend même chez les proches, des fois, qui appellent sur nos lignes de crise. Mais comment ça se fait que ma fille, elle reste là-dedans? Pourtant, elle a été à l'école, elle est intelligente. Mais c'est pas une question d'intelligence. Tu sais, ça n'a rien à voir. C'est une question de contrôle et d'emprise qu'ils ont sur la victime. Tu sais.
Beaucoup de gens, en vous écoutant, vont dire « Oui, mais pourquoi elle reste? » Ça, c'est toujours ce qu'on entend.
Ouais.
Et parfois, comme victime de violence conjugale, on se dit « Voyons donc, comment ça se fait que je me suis retrouvée là, moi aussi? Pourquoi c'est pas simple de s'en aller? » Mais à la première partie de la question, pourquoi reste-t-elle la femme qui est, à la rigueur, parfois consciente justement du contrôle exercé par le conjoint ou l'ex-conjoint?
Mais tu sais, ça se dessine pas la première date, hein. Moi, ça fait 14 ans que je travaille au refuge. Et puis, j'ai jamais rencontré une femme qui m'a dit, moi, la première date, tu sais, il m'a dit, toi, tu vas voir dans les prochaines années ce que je vais te faire subir, tu sais. Puis, qu'il a redonné son numéro de téléphone, là. Ça se passe pas comme ça, tu sais. Elle tombe en amour avec un homme extraordinaire. On parle d'une relation d'amour, tu sais. Ils sont agressés sexuellement en sortant d'un bar, tu sais. On connaît pas notre agresseur. C'est facile d'être en colère après lui, tu sais, puis de voir que c'est de la violence, c'est une agression, mais t'es d'abord et avant tout dans une relation d'amour, tu tombes en amour avec quelqu'un, et quand le cycle s'installe, lui, il a tissé ses fils alentour d'elle. Il sait qu'elle va acheter la première justification. Parce que quand le cycle s'installe, quand il va se justifier au début, c'est jamais de sa faute à lui, mais c'est jamais de sa faute à elle. Ah, je m'excuse, j'étais stressée, j'ai une grosse semaine au bureau. Puis dans notre socialisation, au niveau des femmes, on est habitué de prendre soin de l'autre, de mettre les besoins de notre conjoint avant les nôtres. Fait on va faire, ah ben c'est pas grave, mon amour, tu vas te reposer, je m'occupe du thé, je m'occupe des enfants. On est socialisé à être responsable du bonheur familial, du bonheur de notre conjoint. Puis beaucoup de femmes vont encore, malgré l'émancipation de la femme, chercher leur valeur à travers le regard de leur conjoint. Tu sais. Donc, ça, c'est ce qui nous met toutes vulnérables dans un contexte de violence conjugale. Et quand le conjoint, quand il y a un épisode de violence pour la première fois, il sait qu'elle va acheter la justification parce qu'il a testé des choses avant, tu sais. Donc, au début, c'est jamais « Hey, toi, ma maudite », tu sais. Le cycle s'installe tranquillement. Puis la deuxième fois, ça va être la même chose. Puis la troisième fois, puis à Mané, il va juste dire « Hey, là, j'ai une grosse semaine au bureau. OK, let's go, là, les enfants, le papa, une grosse semaine, tu sais. » Mais tout ça, c'est toujours une mise en contexte parce que lui, ce qu'il veut, c'est lui démontrer que c'est lui le roi de la maison, que c'est ses besoins et ses privilèges qui doivent être mis de l'avant. Donc, c'est une façon pour lui de faire valoir qu'il est le roi de la maison. Donc, peu importe ce qu'elle va mettre en place, elle va toujours être mise en échec. Les enfants aussi, ils vont avoir le sentiment de devoir en faire toujours plus. Et c'est ça qui fait que le cycle perdure, c'est que tranquillement, pas vite, elle en vient à penser qu'elle est responsable de la violence, qu'elle en a pas fait assez. Je le savais, il me l'avait dit, j'aurais dit, tu sais. Et l'ensemble de nous, on a tous des endroits où on est, tu sais, vous allez vous chicaner avec votre conjoint, vous allez en acheter des justifications. C'est pas parce qu'il est pas violent qu'on n'achète pas de justifications. Ah, je m'excuse, j'avais bu, tu sais. Ben, il y en a pour qui ça va résonner. Ah, OK, il y en a d'autres. Ben là, si tu sais pas boire, on boit pas, tu sais. Ouais. C'est comme, mais il y a pas de raison que tu me traites comme ça. Mais on a tout un endroit où on va faire, ah ben, OK. Donc, lui enregistre que ça, c'est une justification qui fonctionne. Mmh. Et le cycle marche parce que lui trouve les fils fragiles de sa conjointe, mais elle est d'abord dans une relation d'amour.
Ouais.
Et c'est ça. Puis avec le temps, ben il y a la peur qui s'installe. Il y a toutes sortes d'autres facteurs qui font en sorte qu'elle demeure.
Et pour en venir à la question qu'on pose à nos auditeurs, là, comment, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire quand si on sait qu'un couple autour de nous, là, qu'on aime, des gens qu'on aime, un couple de notre entourage vit des tensions qui pourraient dégénérer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans le cas de Lisette Corbeil, ce qui est un peu différent, c'est que dans son cas, elle avait quitté cet homme. Elle avait refait sa vie depuis un an. Il est allé la chercher puis la tuer. Fait que c'est un ex qui c'est plus que mal vivre une rupture. Là. C'est vouloir s'enlever la vie puis s'assurer que la femme qui a été l'objet de tous nos tourments parte aussi avec nous. C'est ce besoin d'emporter l'autre. Parfois, c'est des enfants. Fait que c'est deux situations différentes. Mais elle l'avait dit, Lisette Corbeil, elle avait fait ce qu'il fallait. Là. Quand on regarde là, ce qu'on sait aujourd'hui, Guylaine, ben, elle est allée à la police, elle a dit prenez ses armes, il est pas bien dans sa tête, il a des problèmes de santé mentale, il veut s'enlever la vie parfois, il est déprimé, je me sens pas en sécurité, enlever ses armes. On a enlevé les armes à cet homme, ça l'a pas empêché visiblement d'en trouver d'autres, puis il est allé la voir elle, puis il l'a tué elle un an après leur séparation.
Ben, il y a différentes choses dans ce que vous dites, Isabelle. Dans un premier temps, si on est en dépression, on va se suicider. On va pas tuer quelqu'un parce qu'on est en dépression. Tuer quelqu'un, c'est de la vengeance. Tu sais.
Ouais.
Donc, ça, c'est très important de faire la distinction parce que je pense que elle, par mesure préventive, je ne sais pas si elle avait peur pour sa propre sécurité, mais en tout cas, probablement que lui faisait du chantage, si tu reviens pas, je vais me suicider, elle était consciente qu'il y avait des armes. Tu sais, donc, les femmes vont aller à la police pour leur propre sécurité ou des fois parce qu'elles ont peur, elles se sentent responsables de la santé mentale du conjoint, alors que notre propre santé mentale, ça ne relève que de nous. Mais dans un contexte de violence conjugale, la majorité des femmes vont vivre de la violence post-séparation. séparation. Moi, quand les femmes arrivent à la maison d'aide et d'hébergement, elles vivent en grande majorité de la violence post-séparation. Parce que la violence conjugale pour un conjoint violent, c'est jamais une bonne raison de quitter la relation. Au contraire, elle devrait en faire plus pour que ça fonctionne. Parce qu'on n'oublie pas que de la violence conjugale, ce n'est pas dans le système émotionnel. C'est pas de la perte de contrôle, ce n'est pas de la mauvaise gestion d'émotions. On est dans une prise de contrôle. On est dans le système de pensée. Donc, c'est le conjoint violent, c'est lui qui décide quand la relation doit se terminer. Mmh. Et lui ne lui a pas donné le droit d'avoir quitté la relation. C'est exactement ça qui s'est passé. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes ont peur de quitter la relation. Parce qu'elles vont avoir des menaces, parce qu'elles le connaissent, le conjoint. Donc, pour certaines femmes, c'est un facteur de protection de rester dans la relation parce qu'elles ont mis des mécanismes. Mais en
violence... C'est bon ce que vous dites, Guylaine. Ça, c'est important. Rester, pour une femme qui vit de la violence conjugale, rester, c'est se protéger d'une certaine façon.
Oui. Puis moi, j'ai connu des femmes en maison qu'un coup que monsieur a obtenu, monsieur est allé devant la justice pour avoir la garde partagée, pas parce qu'il voulait ses enfants, parce qu'il savait très bien que c'était le moyen pour qu'elle revienne, parce qu'elle est retournée pour aller protéger ses enfants, parce que quand il y avait les enfants subissaient de la violence. Ouais. Donc, la garde partagée devenait un moyen de récupérer madame, et madame retournait pour protéger les enfants. Donc, tu sais, c'est simple pour nous de dire, ben elle a juste à partir, mais il y a énormément de violence post-séparation. Et les conjoints vont souvent utiliser le système pour revictimiser madame, maintenir l'emprise. Parce que pendant qu'il porte une plainte au criminel contre madame, pendant qu'il fait un signalement à la DPJ contre madame, madame vient de sortir de la violence, elle a beaucoup d'enjeux à gérer, elle a beaucoup de choses à s'occuper. Elle, il continue à distance de contrôler sa tête. Mmh. Puis pour le conjoint, c'est pas parce qu'il est séparé physiquement de elle que dans sa tête, la relation est terminée.
Non, visiblement.
Mais c'est ça l'enjeu de la violence post-séparation, c'est qu'il ne lui donne pas le droit.
Vous avez, pour les proches, Guylaine, vous avez une ligne de crise également.
Oui. Oui. Les proches, pour nous, au refuge, on en a quand même plusieurs qui appellent sur la ligne de crise parce que effectivement, les proches vivent beaucoup d'impuissance. Donc, moi, j'invite les proches vraiment à regarder sur le site du regroupement, c'est quoi la maison d'hébergement qui est proche de chez moi? Appeler, puis eux vont pouvoir vraiment vous outiller, vous conseiller en fonction de ce que vous allez leur dire. La première chose à faire, c'est de ne jamais abandonner la victime, dans le sens que des fois, il va vouloir créer l'isolement. Elle va prendre la distance parce qu'elle veut pas que... La chose la plus dure, tu sais, vous parliez de honte tout à l'heure, la chose la plus dure pour une victime, c'est de voir le regard des gens qu'elle aime changer sur elle. Ça, c'est extrêmement difficile pour elle. Donc, pour se protéger de ça, elle, des fois, va faire le choix de se distancer de ses meilleurs amis, de sa mère, de sa soeur, de son frère, parce qu'elle veut pas voir ce regard-là changer sur elle. Donc, les proches, c'est hyper important de ne pas s'éloigner de sa soeur, de sa mère, de son ami, parce que on va l'aider, lui, à l'isoler. Donc, à notre façon, selon notre relation, c'est de garder des liens, tu sais, à travers différents petits échanges, parce que, tu sais, elle peut être tentée de s'isoler. Donc, nous, à travers les lignes de crise, on va soutenir les proches, on va les aider dans leur sentiment d'impuissance. Puis aussi, c'est que, tu sais, si on a l'impression que notre amie, notre sœur, notre voisine va pas bien, ben, tu sais, des fois, c'est de dire, hey, tu sais, j'ai entendu parler d'une ressource, là, ils sont spécialisés, là, dans les relations amoureuses, tout ça. Tu sais, ils peuvent t'aider à voir clair dans ce que tu vis, parce que c'est sûr, ils disent, hey, t'es victime de violence conjugale, appelle-le. Tu sais, ça se peut qu'elle se reconnaisse pas, mais dire, peut-être, ça te ferait du bien de parler avec une intervenante spécialisée, tu sais, parce que nous, on va l'aider à voir, OK, c'est toute la chicane, tu sais, parce que des fois, on se dit, ah, ben, c'était juste une petite chicane. Mais c'était ça ou c'était du contrôle, c'était de la violence, tu sais. Donc, on va les aider à voir la différence.
Il faut absolument que je vous laisse ici, mais c'est tellement, tellement important ce que vous dites, Guylaine Simard. Vous l'expliquez tellement bien. Avez-vous un numéro pour cette ligne de crise pour se confier ou le numéro que les proches même pourraient utiliser en référence?
Le numéro pour la ligne de crise du refuge, c'est le 514-620-4845. Il y a aussi la ligne d'SOS qui peut, parce que nous, au niveau du refuge, pardon, on est dans Montréal, mais si vous voulez trouver une maison d'hébergement proche de chez vous, selon votre où vous habitez, vous pouvez passer par SOS, vous pouvez passer par le site du regroupement. Si vous avez un doute aussi, à savoir, tu sais, comme l'ami du... Qui témoignait dans les nouvelles. La Sûreté du Québec a mis en place aussi une ligne qui s'appelle « J'ai un doute, j'appelle ». Donc, tu sais, si on a un doute qu'un de nos amis peut commettre un geste, on peut appeler aussi à la SQ pour échanger avec eux, partager nos doutes, mettre un filet de sécurité alentour de la victime. Mais ce qui est important, parce que dans les maisons d'hébergement, on a aussi des services en externe. Donc, la femme n'est pas obligée de venir dans la maison d'hébergement. Elle peut aussi rencontrer une intervenante à chaque semaine, une heure par semaine, puis aller avec cette intervenante-là, démystifier qu'est-ce qu'elle vit, mettre des scénarios de protection, préparer son départ en toute sécurité. Donc, toutes ces étapes-là, on peut les faire aussi avant le départ de la femme. Des fois, ça peut prendre un an. On va respecter le rythme de la femme.
Parfait.
Puis, on va la soutenir là-dedans, les maisons.
Merci beaucoup, Guylaine Simard. On va s'arrêter ici. Guylaine Simard est porte-parole du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Elle est directrice du refuge de l'Ouest de l'île de Montréal. Je vais vous donner à nouveau les numéros après la pause, incluant celui de « J'ai un doute, j'appelle », ligne instaurée par la Sûreté du Québec. On a des gens qui veulent intervenir, on va vous donner la parole. Je vous demande si vous sauriez quoi faire si un couple de votre entourage vivait des tensions, puis vous avez l'impression que ça pourrait même dégénérer. Qu'est-ce qu'on peut dire à une amie, à une sœur, à une proche? Cécile, bonjour, merci de nous appeler. Vous avez essayé de parler à une amie qui vivait de la violence conjugale. Qu'est-ce que ça a donné?
Oui. Bien, ça a pris des années, mais maintenant, ça en est sorti, mais c'est ça. Nous, on peut rien faire. La police n'a pas pu l'aider parce que on a envoyé la police, mais elle disait non, non, tout est beau. Elle était brutalisée physiquement et moralement. Mais il faut dire que son mari, c'était pas un alcoolique ni un dopé. Son mari était faible. Il se faisait il était pas bien à son travail. On le ridiculisait et à la maison, quand il arrivait à la maison, il se revengeait sur sa femme.
Il reprenait le contrôle là, parce que c'était facile, c'est ça?
C'est ça. Il prenait sa femme qui était déjà handicapée.
Oh mon Dieu.
Puis elle, pour elle, elle se disait que c'est impossible de il n'y a personne qui va vouloir de moi ou quoi que ce soit. Donc, d'après moi, c'est ça, là. Mais maintenant, ça en est sorti. Mais c'est ça, là, en vous écoutant, ce que j'aime en vous écoutant, là, on a beaucoup plus de ressources aujourd'hui.
Oui.
Là, j'ai pris en note les numéros. Alors, si advenant que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui se fait brutaliser, c'est sûr que je vais contacter. Mais la personne elle-même, si elle veut pas, on ne peut pas rien faire.
Ouais, vous avez raison, Cécile. Et c'est là où, tout à l'heure, mon invité, merci Cécile Guylaine-Simard, disait, faut en tout cas ne pas abandonner la victime. Ça, c'est important. Si on a une chose à se souvenir aujourd'hui de notre discussion, c'est ça. C'est même si l'ami, la sœur, la femme ne veut pas, pour toutes sortes de raisons, il ne faut pas l'abandonner. Ce n'est pas des fois qu'on ne veut pas, c'est qu'on a l'impression qu'on ne peut pas pour toutes sortes de raisons. Michel, bonjour. Vous, c'est votre frère qui était un homme violent. Vous avez essayé de lui parler.
Oui, ouais. Écoute, mise en contexte rapide, on est une famille de 7 enfants. Mon père était déjà violent. Mon père, il travaillait. Ma mère avait pas le droit de travailler. Fait que donc, mon père était violent physiquement, mais mon frère, il est grandi. Lui, c'était sa plus moralement. Fait que donc, lui, son patois, c'était à dire à sa blonde, m'a arraché la tête. Fait que nous autres, c'était plus en humour, tu sais. J'essayais toujours de dire à mon frère, ben oui, comment est-ce que tu vas faire ça? Explique-moi ça, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que j'essayais de tu sais, de dédramatiser la situation. Fait que on faisait, tu sais, on le niaisait un petit peu.
Avez-vous essayé de lui dire à un moment donné à votre frère qui est décédé aujourd'hui, hein, je pense?
Ouais,
c'est ça. Est-ce que vous avez pu lui dire, garde, sans faire des blagues, parce que là, je comprends que vous le preniez un peu sur le ton de l'humour pour pas trop mettre d'emphase dramatique là-dessus, mais c'est quand même une situation dramatique. S'il était violent avec sa conjointe, y avez-vous dit à un moment donné, hey, place-toi, là, te rends-tu compte de ce que tu fais vivre à ta femme? Avez-vous eu ce genre de conversation? Entre hommes, vous pouvez vous parler sérieusement, là, puis avoir ce niveau d'intimité, pardon, dans la conversation.
Oui, on y disait, mais tu sais, on était deux couples d'amis en réalité. Mon frère avait à peu près 5-6 ans de plus vieux que moi, là.
Oui.
Puis on y disait, mais tu sais, on est frère, mais tu sais, c'est de la famille, c'est de l'amour, tu sais, t'es mal placé pour faire ça, mais il faut quand même que tu y fasses face, mais il faut que tu le passes. Mais je pense que ça passait. Je pense que quand on y faisait quand on y disait ça, puis tu sais, on disait qu'il réalisait, là. Mm. Tu sais, quand tu sais, je disais ça comme ça, là, tu voyais que dans sa face, que, ah ben oui, ça.
Il y avait un effet.
Oui, okay. ça faisait un effet plus que si je l'aurais confronté, ouais, d'une façon drastique, là.
Je comprends.
Juste une petite anecdote,
oui,
en terminant, je sais que vous avez beaucoup d'appels. Je vais juste dire, moi, ma blonde, ça fait 36 ans qu'on est ensemble, puis moi, avec, j'ai connu la violence de mon père, puis tout, puis on aurait pu être violent comme couple. Puis, ça fait 36 ans qu'on était ensemble. Puis, la deuxième année, je pense, qu'on était ensemble, on s'est chicané fort, là. Moi et ma blonde, là, « Hey, je vais t'arracher... » Ben, pas « je vais t'arracher la tête », mais, tu sais, « va chier, excuse-moi, mm-hmm, là. »
Ouais, ouais, c'était pas beau à voir. Ouais, ouais, OK.
Puis, c'est ça. Puis, un moment donné, j'ai comme réagi. J'ai fait... Un moment donné, j'ai dit... Puis là, j'ai dit à ma blonde, « Regarde, on va faire un deal, moi puis toi. La journée qu'on se dit des gros mots, qu'on se fait « finger », c'est fini. » Mm. Puis ça fait, je te jure, Isabelle, là, ma blonde, elle pourrait te dire, ça fait 36 ans, on s'est plus jamais dit des gros mots.
Ouais.
On s'est plus jamais fait de finger. On s'est promis qu'on se respectait.
Mais c'est fascinant, Michel. Votre histoire, c'est l'histoire de deux frères. Un violent qui a fallu toute sa vie probablement remettre en place souvent, qui n'a pas dû faire vivre des belles choses à sa conjointe tout le temps. Puis vous, non-violent, qui tout de suite, au moment où vous avez pris conscience que vous auriez pu tomber vous aussi dans un cercle de violence, vous avez dit non, c'est pas vrai que je vais être comme ça. Deux frères dans la même famille. Hein? C'est ça, là?
J'ai un tempérament impulsif. Mais quand je vois, à force de voir mon frère, tu sais, le faire comme ça,
Exact. Ouais. Hey, merci de votre appel. Merci beaucoup, Michel. Très
merci,
apprécié.
Bonne journée.
Maude Pontel est avec nous. Elle est coordonnatrice à l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape. Bonjour, Madame Pontel.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens, les familles, les proches qui nous écoutent, les frères, les sœurs, les amis qui se disent « Qu'est-ce que je peux faire pour aider cette femme de mon entourage qui vit de la violence? »
Mais je vous dirais, j'ai beaucoup apprécié là, ce que Cécile et Michel ont apporté comme propos.
Mm-hmm.
C'est vrai que quand Cécile parlait de son amie, elle a dit que ça avait pris des années,
ouais,
que plusieurs personnes avaient essayé de lui parler, puis que finalement ça avait pris vraiment beaucoup de temps avant que Madame décide de partir. Et je pense que la première chose que j'ai le goût de dire, quand on parle à une victime, quand on réalise qu'elle est victime de violence conjugale, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est respecter le rythme de cette femme-là. Parfois, les femmes vont avoir peur de l'inconnu. J'entendais Guylaine Simard, la directrice du refuge, qui disait que les femmes se culpabilisent, elles ont honte de ce qu'elles vivent, elles ont peur aussi, parce que des fois, rester dans une relation violente, c'est peut-être aussi une stratégie de survie. Quand le conjoint dit « je vais te tuer si tu me quittes », les femmes qui restent, c'est aussi pour se protéger. Donc, je pense que c'est très important. La première chose, c'est de respecter le rythme des femmes, le rythme des victimes, et surtout ne pas poser de jugement. Parce que on n'est pas à la place de ces femmes-là. Et je pense qu'elles ont tout un processus à faire pour comprendre la situation dans laquelle elles vivent, pour être capables d'identifier la violence qu'elles vivent, qu'elle soit psychologique, verbale, économique, physique, sexuelle, etc. Ça prend du temps. Donc la meilleure chose, comme le disait Guylaine, c'est ne surtout pas abandonner les femmes, continuer d'être là, continuer aussi, je dirais, à exprimer ses craintes, ses doutes, ses peurs par rapport à la situation. Michel qui disait par rapport à son frère là que bon, il lui parlait puis il disait écoute, c'est pas correct, etc. Puis oui, parfois on peut y aller sous le coup un petit peu de la pour dédramatiser les choses, mais je pense que surtout il ne faut pas aller vers la banalisation. Ces comportements sont inacceptables, ce n'est pas correct. Et je pense que c'est important aussi à un moment donné de prendre position. Moi, ce que tu vis, je trouve que c'est extrêmement difficile. Puis je pense que tu es dans une situation qui est problématique. Il y a des ressources qui existent, il y a des ressources qui sont prêtes à pouvoir t'accompagner, t'aider, te supporter. Quand tu seras prête, je pourrais moi aussi t'accompagner dans ce processus-là. Voilà. Donc je pense que c'est très important. La première chose, respecter le rythme des femmes, ne pas porter de jugement, ne pas vouloir les précipiter vers quelque chose où finalement elles ne sont absolument pas prêtes. Et surtout ne pas banaliser n'importe quel type de violence.
Voilà, merci. Vous restez avec nous, bien sûr. Le numéro de la Sûreté du Québec pour J'ai un doute, j'appelle, c'est le 1-800-731-4000. 4-0-0-0 1-800-731-4000. C'est un des numéros. Je vous en donnerai d'autres d'ici la fin de cette heure. Restez là. Bien sûr, si vous avez une situation de violence conjugale dont vous voulez nous parler, n'hésitez pas à nous appeler au 514-790-9850. Avez-vous essayé d'aider un proche, une proche qui était qui vivait ça et qui semblait être coincé dans ce cercle vicieux, qui avait peur de sortir de cette relation toxique? Est-ce que vous avez tenté de l'aider? Dites-moi comment vous avez essayé ça. Si vous avez besoin également de conseils, n'hésitez pas. On a des intervenantes avec nous. À tout de suite. Lucie est avec nous. Bonjour. Je pense que vous avez essayé d'aider quelqu'un, Lucie.
Oui. Ben, en fait, moi-même, j'en ai vécu la violence. Mais j'ai aussi aidé une de mes amies une bonne amie là, qui était en situation vraiment de violence, je dirais conjugale, familiale, là, même les enfants.
Ah oui.
Moi, en ayant vécu moi-même, ben là, je me dis ça n'a pas de bon sens, je peux pas laisser ça comme ça. Donc je l'ai vraiment dirigée vers les services. Moi, j'ai quand même étudié dans un domaine de psychologie, là. Donc j'ai vraiment pris des démarches parce qu'elle n'était pas capable du tout, du tout. Ça a été long parce qu'elle voulait pas vraiment quitter ses enfants. Là. C'est surtout ça, souvent le problème.
C'est sûr.
Je lui ai expliqué que c'était nécessaire. On est parti pendant la nuit, puis la DPJ a ramassé les enfants. C'était vraiment difficile, là, mais aujourd'hui, elle va énormément mieux. Mais c'est sûr que elle est très marquée de ça, hein, évidemment. Là, mais les enfants vont bien. Mon amie va bien aussi. Mais les enfants sont suivis aussi là, par des services psychosociaux parce que c'est sûr qu'ils sont traumatisés. Là, donc, oui, ça c'est mon histoire.
Merci, Lucie. Restez à l'écoute. On va prendre vos coordonnées, s'il vous plaît. Maude Pontel, coordonnatrice à l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent, là, qui seraient un proche d'une femme qui vit cette situation-là?
Alors, tout d'abord, je dirais effectivement, quand on connaît quelqu'un qui vit une situation de violence conjugale, qu'on est proche de cette personne-là, puis qu'on aimerait entre guillemets pouvoir la sauver, il faut vraiment avoir conscience que on ne peut pas la sauver. C'est vraiment la personne qui est victime qui doit prendre la décision de partir. Parce que si on la pousse, si on essaye vraiment de précipiter les choses, peut-être que cette personne-là va se fermer. Donc, par rapport au sentiment d'impuissance que les personnes peuvent éprouver, peuvent vivre, c'est très important de tout d'abord appeler la ligne SOS violence conjugale. Oui. C'est le 514-363-90-10. Là, ils vont être accompagnés par des personnes qui sont spécialisées, qui vont leur expliquer quelles sont les démarches qu'ils peuvent faire. Et c'est vrai, souvent, les femmes vont avoir peur de partir parce qu'il y a la peur de l'inconnu. Mais si on explique aux femmes l'ensemble des services services qui existent, que ce soit les maisons d'hébergement d'urgence, les maisons d'hébergement de deuxième étape, les services externes, les centres de femmes, etc., où vraiment les femmes vont pouvoir être accompagnées dans l'ensemble de leur démarche, déjà, ça leur permet de comprendre ce qui peut exister après la séparation en termes de services, ça peut peut-être déclencher quelque chose aussi. On le voit, les femmes ont peur des répercussions sur elles-mêmes, sur leurs enfants, etc. Donc, c'est très important d'accompagner ces femmes dans leur prise d'information et de compréhension de comment est-ce que les services fonctionnent et comment est-ce qu'elles, elles peuvent être aidées. Donc, quand on est un proche, c'est très important, respecter le rythme des femmes, ne pas la juger, ne surtout pas banaliser la violence, parler de la peur des répercussions aussi et surtout référer vers des services qui vont pouvoir supporter et accompagner les enfants, les femmes et les enfants.
Ouais, j'ai Nathaniel qui m'écrit, c'est un employeur, il dit « J'ai essayé d'aider une de mes employées, j'ai même envoyé la police à la maison chez elle. Ça a été difficile, elle ne voulait rien faire malgré de graves blessures physiques. » Il dit « J'ai porté plainte moi-même. Elle s'est finalement séparée, mais ça se fut fragile. Elle ne travaille plus pour moi. » Il pense encore à elle. Il se dit « Bon, est-ce qu'elle est encore vivante aujourd'hui? » Il dit « Je pense qu'elle était tannée aussi que j'essaye de l'aider. Il a fallu à un moment donné que je décroche, mais j'ai eu l'impression de tout faire ce que je pouvais humainement faire. » C'est intéressant comme témoignage.
Oui. Puis je vous dirais, c'est ça, que ce soit des collègues, des amis, des proches, etc., les victimes vont avoir les réactions, elles sont en mode de survie. Donc, c'est souvent, ça peut nous paraître parfois étrange la manière dont elles vont décider de gérer la situation, mais le plus important, c'est de ne pas abandonner les victimes. On en a parlé plus tôt au niveau de l'intervention policière. Quand on a des doutes par rapport à la sécurité de quelqu'un, c'est très important d'appeler le 911. Et là, effectivement, il y a eu une intervention policière. Madame n'a pas voulu porter plainte, mais les policiers ont le mandat de porter plainte s'ils constatent qu'il y a effectivement eu des infractions, des voies de fait, de la violence physique, etc., etc. Ouais. Donc là, même si madame ne veut pas porter plainte, l'acte qui a été commis, c'est un acte qui enfreint les règles sociales. La violence n'a pas lieu d'être dans notre société. Qu'elle soit dans le domaine public ou qu'elle soit dans le domaine privé, il n'y a pas d'excuse à la violence. Ouais. Donc, même si madame a décidé de couper les ponts, c'est sa décision, ça lui appartient. Là, monsieur disait qu'elle était séparée, et c'est sûr que là, je peux comprendre là, ses inquiétudes, etc. Mais possiblement qu'à un moment donné, madame peut-être prendra contact avec lui et le remerciera de ce qu'il a fait, parce que peut-être qu'au moment où les choses se sont passées, madame n'était pas prête, madame n'avait pas encore identifié la violence dans laquelle elle vivait, puis elle n'était pas prête à partir.
Merci beaucoup, Maude Pontel, coordonnatrice à l'Alliance des maisons d'hébergement, deuxième étape. Sylvie Lavallée est sexologue psychothérapeute. Je trouvais intéressant de lui demander justement son avis là-dessus. Bonjour Sylvie.
Bonjour Isabelle.
Qu'est-ce qu'on peut dire à un proche qui vit une situation de violence conjugale, Sylvie?
Je vais surtout m'adresser à des proches d'un conjoint qui semble violent. On a tous un tissu social, les amis, des collègues, un entourage, et je pense que dans ce cas-ci, il faut s'imposer, s'impliquer. S'imposer dans sa présence. Viens, on va aller faire un tour. Viens, on va aller faire du sport ensemble. Mais d'aller chercher cet homme-là qui souffre, et souvent qui souffre de l'intérieur, qui a une colère, une rage, une révolte. C'est terrible de vivre une séparation. C'est pas vrai que ça s'accepte en un claquement de doigts. Il y a beaucoup d'étapes dans le détachement puis dans le désinvestissement. C'est un processus où quand on est dans un état de choc et qu'on voit que l'autre a une longueur d'avance sur nous, qu'on n'est pas rendu, qu'on l'accepte pas, il faut que les proches soient sensibles à ça. Et des fois, moi, j'encourage des patients dans mon bureau à dire « As-tu un bon contact avec ton employeur? Peux-tu lui dire « Ça va vraiment pas bien ces temps-ci, je vis une détresse conjugale, j'ai un moment difficile. » Y a-t-il un programme d'aide aux employés? Est-ce que je peux prendre des journées de congé? » Mais des fois, les gens n'osent même pas en parler au travail. Je ne vais pas en parler à tout le monde, mais cibler des gens précis, dont le patron ou le supérieur immédiat, puis dire « ça va pas bien », parce que nos problèmes dans notre vie privée, je m'excuse, mais on les amène au travail. Comme notre stress du travail, on l'amène à la maison. Donc, c'est des vases communicants. Alors, déjà là, d'en parler à quelqu'un avec l'employeur, puis dire est-ce que tu as besoin d'une ressource? Est-ce que tu as besoin d'aide spécifique? Est-ce que tu as besoin de consultation psychologique? Mais dans les proches, des fois, les gens, ils respectent ça. Ah, s'il y a besoin, il va me le dire. Dans ce cas-ci, ce que je propose humblement, là, mais imposez-vous, sollicitez. Souvent, le sport, pas besoin de parler, mais juste aller frapper des balles au terrain de tennis, ça peut vraiment évacuer une tension. Ça peut faire du bien. Ça peut ramener dans le moment présent. Sentir que je suis pas seule. Sentir que je suis avec une présence. Vous n'êtes pas obligé, les amis du couple, d'être des thérapeutes, là. Mm-hmm. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le mot juste. Mais des fois, juste sentir que je suis disponible. Je suis accessible. Ou viens faire un tour chez nous. Viens nous dormir à la maison. Viens nous passer le week-end au chalet. Ça va te faire du bien. Tu te mettras les pieds au bout du quai. C'est pas grave si on parle pas. Je suis là.
Exact.
On fait un feu ensemble.
Et voilà.
Je suis là.
Et Sylvie, pas avoir l'impression que parce qu'on le dit une fois ou deux, ben l'autre devrait comprendre tout de suite, là.
Peux-tu me répéter parce que ça a coupé brièvement.
Tu disais autant c'est difficile puis parfois bon on se sépare pas puis une rupture on n'accepte pas ça en un claquement de doigts. Ben non. De la même façon, on c'est pas évident de dire à un proche de se sortir de cette situation là. Donc c'est pas parce qu'on le dit une fois ou deux que là franchement j'y ai dit qu'elle comprenne là, tu sais.
Ah non, des fois faut
être très patient, très patient.
Oh oui, très patient, respectueux et compréhensif mais présent.
Voilà. Jamais abandonner la personne qui est au cœur de ce genre de problème de couple. Merci beaucoup, Sylvie Lavallée, sexologue, psychothérapeute. Je vous rappelle, là, s'il y a une chose qu'il faut se souvenir aujourd'hui, rester pour une femme qui vit de la violence conjugale, parfois, c'est la seule façon de se protéger. On reste ensemble, bien sûr. On va parler de voyage, de croisière après les nouvelles.